ta main visible de Dieu. Dis avec moi, merci Jésus, pour ta main visible sur ma vie. Merci pour ta main visible sur ma famille. Merci pour ta main visible sur mes affaires. Merci pour ta main visible sur mon foyer. Merci pour ta main visible sur la vie de mes enfants. Merci pour ta main visible. Merci pour ta main visible. Ouvre ta bouche et prie. Une minute. Shala kata lekete. Zeba kata lokoto. Rada kada kada kala kada bagada. Ragada kala kada bagada kada. Yagada kala kada bagada. Yagada kala kada bagada. Merci pour ta main visible. 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 Merci Jésus pour ta main visible. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta main visible. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous bien aimés. Revenons sur notre texte de la dernière fois. 1 Roi chapitre 18, le verset 46, vous vous souvenez? 1 Roi 18, 46. La Bible dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'étant retroussé sur les reins, courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jiré. Oui, bien-aimé, nous parlons de la main. Vous savez, dans le corps, il y a plusieurs organes. Il y a plusieurs, et chaque organe que Dieu a mis dans le corps d'un homme a un rôle spécifique, a un rôle majeur. Alléluia. Et dans notre cas, nous réalisons ici que la main joue un rôle tellement important qu'elle est parmi les armes de Dieu. La Bible dit que la main droite de l'Éternel, et dans certaines versions, la droite de l'Éternel lui vint en secours. Alléluia. La main de l'Éternel, la main droite de l'Éternel lui vint en secours. Alléluia. Nous réalisons ici que la main joue un rôle important dans la délivrance des hommes. Lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, c'est la main de Dieu qui est descendue en Égypte pour les délivrer de Pharaon. Alléluia. Mes bien-aimés. Et souvent, la main de Dieu est à l'œuvre dans nos vies, mais elle ne nous est pas évidente. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie et dont nous nous attribuons le mérite lorsqu'elles sont bonnes, et d'autres que nous rejetons sur nous-mêmes, sur les autres ou sur le diable lorsqu'elles ne sont pas bonnes. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la Bible nous enseigne d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la main de Dieu n'est pas l'origine de certains maux dans nos vies, mais la main de Dieu s'en sert pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Oui, je vous ai expliqué la dernière fois ce qu'était la main de Dieu. C'est le secret qui permet d'échapper à la destruction dans la vie. La main de Dieu sur la vie d'un homme, c'est l'énergie de Dieu qui accomplit les promesses de Dieu dans sa vie. Lorsque la main de Dieu est sur un homme, il ne lui est pas possible d'avancer au rythme normal des hommes. Alléluia. La main de Dieu dans la vie d'un homme est la garantie de la sécurité, de la sûreté dans le voyage de la vie. La main de Dieu interdit à une personne d'exister en tant que matériau de gaspillage. Non. Quand la main de Dieu est sur ta vie n'est plus inutile. Ta vie devient utile. Alléluia. Nous avons parlé de comment la main de Dieu profite-t-elle à la vitesse. Nous avons vu la main de Dieu qui libère le secours de Dieu. La main de Dieu libère la puissance de Dieu. La main de Dieu libère la faveur de Dieu. La main de Dieu libère la bonne volonté et le réconfort de Dieu. Alléluia. La main de Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même lorsqu'elle ne nous apparaît pas clairement. La main visible de Dieu agit à travers certaines de nos décisions. Certains événements qui se produisent dans nos vies, certaines orientations que nous choisissons de suivre, etc. Et c'est peu que nous ne tenions pas compte de Dieu dans ces choses. Mais en dessous, Dieu est à l'œuvre. Deutéronome 33, le verset 27a. Le verset 27a, la Bible dit, « Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. » Alléluia. Et sous ses bras éternels est une retraite. Eh bien aimé, si nous essayons d'étudier la vie de ceux qui nous ont précédés, vous allez voir que la main visible de Dieu opérait dans les circonstances, les situations, les challenges de leur vie. Alléluia. Nous avons commencé par parler de Moïse la dernière fois. Moïse qui croyait conduisait les moutons vers les verts pâturages. Il ne savait pas en même temps qu'il avait rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Parfois nous croyons que nous entrons par cette porte pour aller chercher une marmite à la cuisine, alors que Dieu a rendez-vous avec cette marmite et nous. Alléluia. Alléluia. Nous voyons comment Moïse, dans le chapitre 3 du livre d'Exode, va être visité, va rencontrer l'ange de l'Éternel dans un buisson ardent. Lui qui était venu conduire ses brebis vers des verts pâturages, Dieu le conduisait vers son vert pâturage. Alléluia. Oui, il pensait qu'il conduisait les brebis, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui le conduisait. Moïse n'était pas du tout préparé à cette rencontre qui a changé la direction de sa vie et pour le mieux. Vous voyez, après cet incident, on a pu parler de Moïse comme le berger des brebis. Dieu avait d'autres brebis pour lui. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Il y a certaines situations dans la vie qui te préparent à occuper certaines positions dans la vie. Tu n'as pas compris. Il y a certaines situations dans la vie qui te préparent à occuper certaines positions dans la vie. Si tu ne passes pas par certaines situations, tu ne seras pas assez capable de gérer certaines responsabilités de demain. Aujourd'hui, tu vas croire que non, on t'en veut. Non, demain, tu comprendras la sagesse de tout ce rejet, de toute cette haine, de toute cette méchanceté. Et tu vas même aimer ceux qui t'ont fait du mal hier. Et ce sera facile pour toi. Genèse chapitre 50, la Bible parle de Joseph. Lorsque son père va mourir, ses frères vont s'effrayer en se disant, « Ah, papa qui pouvait nous protéger de la main de Joseph est mort. Maintenant, Joseph va se venger. » Et Joseph va dire, « Vraiment, comment vous pouvez penser ça? Comment ? Je sais aujourd'hui que c'est grâce à vous que je suis ce que je suis. » Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être reconnaissant à l'autre, c'est moi. Sans vous, sans votre haine, sans votre méchanceté, je ne serai jamais devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être tu es ici, tu en veux à tous ceux qui te font mal, tu en veux à tous ceux qui te haïssent, tu en veux à tous ceux qui t'ont maudit. Bien-aimé, je viens te dire que tu n'as pas, ça ne te profitera nulle part. Apprends. 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 Des difficultés de ta vie. Apprends des erreurs de ta vie. Apprends des conflits de ta vie. Apprends. Regardez Saul, qui croyait aller chercher les ânesses perdues de son père Kish. Dieu cherchait un roi. Ah oui. Dieu cherchait un roi. Lui cherchait les brebis. Dieu cherchait un roi. Et Dieu va provoquer une rencontre dans la maison de Samuel pour l'introniser roi. Je prophétise dans ta vie. Cette rencontre qui va t'introniser, cette rencontre qui va t'établir cette année, cette rencontre qui va t'introduire dans ta saison de stabilité, dans ta saison de joie, dans ta saison de paix, au nom de Jésus. Alléluia. Quand vous regardez le texte dans le livre de 1 Samuel 9, vous voyez toute cette histoire. À partir du verset 15 au verset 16, nous voyons le prophète qui va lui dire quelque chose de cette manière. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Ah, voici un homme qui cherchait des brebis. Ah, comme beaucoup d'entre nous. c'est semblable à Gédéon, qui voulait juste qu'on le reconnaisse comme le fils de son père. Et Dieu cherchait un juge. À la fin de la mort de son père, ses frères vont le chasser. Va-t'en, ta mère était une prostituée. Il va dans le désert. On l'oublie. Il lui dit, ouais, je voulais seulement qu'on connaisse que je suis aussi le fils de mon père. Quand il sera assez fort, je vais aller tous les fouetter. Je vais les montrer que c'est moi, Gédéon. Ils vont souffrir. Je ne les pardonnerai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Un jour, Dieu va créer un problème au milieu des enfants d'Israël. Une nation ennemie va venir les attaquer. Et les anciens vont s'asseoir et dire, on va faire comment? Et l'un d'eux va dire, appelons Gédéon. Jephté, merci. Il dit, appelez Jephté. Jephté était dans le désert. Jephté était devenu un général de guerre dans le désert. Bien-aimé, ta dimension ne va grandir que dans les difficultés. Tes grades ne vont prospérer que dans les difficultés. Aucun général ne devient général sur des terres fraîches. Alléluia. Et bien-aimé, tous ceux qui sont devenus grands avec Dieu ont vécu au désert, ont grandi au désert, ont remporté les batailles au désert. Tant que tu ne remportes pas tes batailles au désert, tu ne peux pas aller à la prochaine étape. Alléluia. Le désert prend plusieurs formes. Le désert peut prendre la forme des oppressions autour de toi, des difficultés autour de toi, des rejets, des haines autour de toi. Le désert peut prendre la forme des difficultés financières, matérielles et autres. Alléluia. Manque d'aide, manque de soutien. Mais tant que tu ne comprends pas pourquoi tu es là, pourquoi tout ceci se passe, et quel est le plan de Dieu dans tout ce qui se passe, tu ne pourras pas voir la main visible de Dieu. Alléluia. Jephté était dans le désert. Et Dieu l'a imposé comme le roi. Les enfants d'Israël n'ont pas consulté ses frères consanguins. Pour dire vraiment, votre frère, on va faire comment? Imaginez, Jephté qui est parti, personne ne savait même pas qu'on l'avait chassé. Personne ne savait par quoi il passait. Sauf ses frères. On l'a chassé. On n'était pas au courant qu'on l'avait même chassé. Quand ils ont cherché, Dieu a dit, il est au désert. On est allé au désert, dit Jephté, s'il te plaît. Il croyait certainement qu'on venait le prendre pour bien prendre l'héritage de ton père. C'est toi le successeur d'une maison en ruine. Alléluia. Beaucoup veulent hériter des problèmes étranges et Dieu veut des rois. Il veut leur donner quelque chose de paisible et il veut quelque chose avec les problèmes. Et Dieu dit à Jephté, Dieu prend, les anciens prennent Jephté et dit non, nous on ne veut pas que tu hérites de ton père, on veut que tu hérites de tout l'héritage de l'Éternel. Tout Israël. Il dit, wow. Imaginez ses frères qui sont devenus ses ouvriers. Imaginez ses frères qui sont devenus ses soldats. Ses frères qui étaient obligés de dire oui mon roi, parce qu'ils avaient peur d'être zigouillés. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, par où tu passes, c'est là aussi que viendra la solution. Par où tu passes, c'est là aussi viendra le médicament. Par où tu passes, c'est là où viendra la restauration. Par où tu passes, c'est là où viendra la grandeur. Par où tu passes, c'est là où que viendra l'élévation. Au nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous regardons à nos difficultés. Et parfois, j'ai l'impression, quand je parle avec beaucoup de gens, parfois j'ai dans mon esprit l'impression, et même pas l'impression, la certitude, qu'ils estiment que je ne les comprends pas assez. Ah, papa, tu ne peux pas comprendre par où je passe. Vraiment, parle ta part. c'est parce que vous ne connaissez pas ma vie. Je vous en parle de temps en temps ici. De là où je suis venu, du rejet des malédictions que j'ai reçues sur ma vie. Mon père m'a maudit, pas derrière, devant moi, à la veille d'une nouvelle année. Quand on te maudit à la veille d'une nouvelle année, ça veut dire qu'on t'interdit l'accès au bonheur de cette année et les années qui viennent. Et cette nuit-là, j'étais dehors. J'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, Seigneur, voici mon père qui m'a maudit. Sois mon père et délivre-moi. Et délivre-moi. Je connais le rejet. Je connais la haine. Je connais la méchanceté. Je connais le manque. Je connais la difficulté. Je connais le manque de reconnaissance. Pourquoi quand je prie pour quelqu'un et qu'il ne se retourne pas avec moi, ça ne me dérange pas. Je reste focalisé là où je vais. Alléluia. Parfois quand je discute avec plusieurs au téléphone, en face à face, ils ont l'impression que je ne cerne pas bien leurs problèmes. Je ne cerne pas la difficulté, la douleur par laquelle il passe. Laisse ça. Laisse ça. Si je te donne ma vie, tu ne veux pas la porter. Et même jusqu'à aujourd'hui où je suis. Dernière fois, je vous ai raconté une petite partie des difficultés que j'ai dans ma maison avec mon fils. Tu as pleuré là-bas? Tu m'as vu pleurer? Alléluia. Toi, tu as pleuré. Et ce jour-là, j'ai dit, n'ayez pas pitié de moi. Je vous raconte ça pour que vous vous soyez courageux. Et que la vie dans laquelle nous sommes engagés, c'est une bataille. Et chacun a sa bataille. Chacun a sa bataille. Et Dieu nous attend que chacun dans sa bataille fixe les regards vers lui. Dans le désert. Ceux qui ne fixaient pas le serpent des reins mouraient, mordus par le serpent. Ceux qui regardaient le serpent des reins, malgré la morsure du serpent, vivaient. C'est dans ça que nous sommes engagés, les amis. Si tu regardes à ta douleur, tu regardes à ces situations, à tout ce qu'on fait, tu vas mourir. Quand parfois, il vous dit, laisse ça, fixe devant. Laisse ça, tu ne comprends pas. Laisse ça, ça va te tuer. Ça va te faire rentrer en arrière. Ça va te détruire. Fixe le Seigneur. Fixe ses paroles. Crois en sa fidélité. Approprie-toi ses promesses. Si tu regardes, est-ce que quelqu'un comprend ce verset maintenant? Ah oui. Beaucoup d'entre nous, on passe le temps à se morfondre parce qu'aujourd'hui on n'a pas bien mangé, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela, les choses, oh, depuis que je suis là, depuis que je suis à côté de l'apôtre, il prophétise, les gens, ça marche, moi je suis là. Oui, ta paille est devant. Sylvanie a attendu 8 ans. T'as tué là, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas moi, combien de temps. Alléluia. Je ne dis pas que pour toi, tu dois faire plus que Sylvanie. Je dis que tu dois être persévérant. Dieu a son temps. Amen. Dieu a un travail dans la vie de chacun de nous. Dieu a un timing. Et ce timing est lié à la manière que tu fixes les regards sur lui. Tu fixes les regards sur lui. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous avons regardé la vie d'Esther, la main visible d'Esther, de Dieu sur la vie d'Esther. Dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Voyez? Mais nous voyons sa main invisible dans les événements de ce livre. Comment une pauvre orpheline aurait-elle pu devenir reine dans un pays étranger par le biais d'un concours? Ça, c'est la première fois qu'on parle de concours de beauté dans un pays. Quand vous croyez que le concours de Miss a commencé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est longtemps. Esther a participé au premier concours de beauté. Amen. Il y avait plus de 2 000 à 5 000 femmes réunies Comment on pouvait choisir rester au milieu de toute cette situation? La main invisible de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé. Non seulement le tour d'Esther est arrivé de se présenter au roi comme les autres règnes potentiels, mais son tour a également mis fin à la compétition. Quand Esther est venue, on a dit, c'est toi la reine, ça va. Celles qui ne sont pas passées, c'est fini. Ah, j'ai dit que quand ton tour va arriver, on va arrêter la compétition. Quand ton tour va arriver, on va arrêter le recrutement. Quand ton tour va arrêter, on va arrêter la promotion au nom de Jésus. Esther est devenue reine et ça a stoppé la sélection. Non, 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 on n'a plus besoin. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Le roi et tout le monde ont été satisfaits d'elle. Esther chapitre 2, le verset 15, le verset 17. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaël. Elle ne demanda que ce qui fut exigé, désigné par Égaël. Égaël, c'est qui? Eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Oh mon Dieu, puisses-tu trouver grâce? J'ai dit, puisses-tu trouver grâce? Puisses-tu trouver grâce? Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et pas aux yeux de tous ceux avec qui elle parlait. Il la voyait. Ah. Bien-aimé, il y a des gens que quand tu vois, tu es énervé. À partir d'aujourd'hui, quand on te verra, la faveur est avec toi, la faveur est avec toi, la faveur est avec toi. À la simple vue de ta personne, tu trouves faveur, tu trouves faveur, tu trouves faveur. Rappelez-vous un peu plus tard. Un peu plus tard, lorsqu'il va falloir rentrer, alors qu'il y avait ce décret de mort, quand le roi va voir Esther, il va dire, demande, même si c'est la moitié de mon royaume. Ah, ah. Elle n'a même pas encore parlé. La même grâce travaillait encore. Ah non. Ah non. Puisses-tu trouver grâce lorsqu'on te verra? La Bible continue en disant, Esther fut conduite auprès du roi Ahasuerus dans sa maison royale. Le dixième mois qui est le mois de Tébère, la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Jesus. Esther, qu'est-ce que tu as fait à cet homme? La Bible va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait. Amen. Finissons la lecture. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'Esther a trouvé grâce? Non, n'allons pas trop vite la main. Alléluia. Regardons. Regardons. Revenons un peu en arrière. La Bible dit que au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné. Elle ne demanda que ce que fut désigné par qui? Égaël, elle a suivi les instructions d'Égaël. Égaël savait ce que le roi aimait. Il savait le genre de femme que le roi aimait. Il savait comment le roi aimait les filles qui tournent les reins. Amen. Pas les gens boiteux, bâton. Amen. Et il savait que quand une femme fait comme ça, oh, le roi dit, c'est elle. Il dit, maman Esther, quand c'est ton tour, ne marche pas comme les autres. Toi casse. Et quand tu casses, tu ne cours pas vite. Tu casses, tu t'arrêtes. Donc quand je vous donne les instructions, vous ne comprenez pas. Vous voyez le sketch. C'est pas le sketch, oh. La vie, c'est pratique. Alléluia. La vie ici est pratique. Je ne suis pas en train de vous parler. Non. L'alphabet et la grâce, elle a obtenu ça comment? Elle a suivi les instructions de quelqu'un qui était proche. Et le roi lui disait tout le temps, Gaël, si je trouve une femme qui fonctionne comme ça, vraiment, mon cœur va être joyeux. Il dit, papa, j'ai compris. Et quand Esther arrivée au milieu de toutes les femmes, Esther a trouvé grâce à ses yeux. Parce qu'elle écoutait. Chaque fois que Gaël disait, faites comme ça, Esther faisait. Il dit, waouh, cette petite-là, elle écoute. Bien aimé, il y a certaines dimensions de la grâce que tu ne peux atteindre que par ta décision d'obéir aux instructions. Par ta décision d'obéir aux instructions. Fais comme ça. Ah, je connais, je n'ai pas besoin de toi. Ah, je connais, je n'ai pas besoin. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Elle est arrivée là-bas. Elle a pris Egaël comme elle a pris Madoché. Elle a dit, Madoché n'est pas ici. Egaël, tu deviens mon père. Ce que tu m'as dit. Comme j'écoutais, écoutez, avant qu'elle ne parte, Amadoché lui a dit, cache ton identité. Elle a caché. La même obéissance qu'elle avait pour Madoché, elle a reconduite pour Egaël. Egaël lui disait, fais comme ça, dit merci papa. Mets tel parfum. Le roi n'aime pas Boss. Il n'aime pas la petite sirène parce que ça attire les eaux. Alléluia. C'est ça, non? Ou bien la petite robe. C'est quoi la petite robe? C'est trop court. Ne prends pas l'autre là. Prends quelque chose de sobre, ma fille. Ne prends pas les parfums trop flamboyants. La Bible dit que Esther a été plongée dans l'eau parfumée pendant 6 mois. Jusqu'à devenir parfum elle-même. Là, tu te lèves, tu te laves, tu crois que tout le monde va t'aimer. Il y a un art. Il y a un art. Oh, l'homme là, depuis qu'il m'a vu, il ne me parle plus. Hein? Tu as suivi les conseils de Gaël? Mon patron n'est même plus. Tu te laves comment? Avec un savon. Alléluia. Et parfois tu arrives, les gens comme ça, le madame, vous sentez bon, hein? Ah, mais c'est quel parfum? C'est fini, hein? Ah, boss, je voulais tel service. Non, viens, donne-moi d'abord le nom du parfum, là, après, je vais te donner ce que tu veux. C'est fini. Toi, tu ne mets pas de parfum. Tu pars où? Il faut mettre les parfums dans la vie. Dis à quelqu'un, mets les parfums. Vous savez, il y a des pasteurs qui détestent les parfums. Amen. Qu'ils ont reçu certaines révélations sur les parfums. Ça, c'est leur problème. Amen. Moi, Dieu ne m'a pas dit quelque chose contre les parfums. Amen. Mets ton parfum. Sauf le parfum des marabouts. Vous tous, vous connaissez l'odeur. Parce que vous étiez les anciens. On était tous les anciens clients. Amen. Pourquoi Egaël a-t-il donné à Esther le conseil sur la manière de se présenter devant le roi? Pourquoi lui a-t-il accordé un traitement de faveur? Voyez ce que la main visible de Dieu a fait pour Esther. Au verset 9, du même Esther 2, la jeune fille lui plut. Oh mon Dieu, lui plut. Elle trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça entre ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Vous voyez la main invisible de Dieu? Esther a plu à Egaël. Elle a plu. Comment elle a plu? Son comportement, sa manière de faire, sa manière d'être. Son humilité, sa simplicité, son dévouement, son service. Elle dit, cette fille, tu me plais. Tu me plais. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Et il va lui donner les choses nécessaires pour sa toilette. Les autres, il ne leur a pas donné les choses nécessaires. Elles se sont lavées avec tout ce que les autres se lavent. À Esther, il lui a donné quelque chose de différent. À Esther, est-ce que quelqu'un voit maintenant? Est-ce que quelqu'un voit maintenant? La fée là s'est préparée. On ne se lève pas le matin, on dit Esther parce que tu portes le prénom. Alléluia. Tu peux porter le prénom d'un héros dans la Bible, mais tu as l'opposé de sa vie. Amen. Tu as l'opposé de sa vie. Vous voyez? Mes bien-aimés, pourquoi n'est-il pas accordé la même faveur aux autres femmes? De plus, lorsque ce fut le tour d'Esther, la Bible dit qu'Esther n'a rien demandé d'autre que ce que Gaël lui avait conseillé. Quand on a dit à Esther, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je veux ça, je veux ça. Parce que Gaël lui a dit, ne prends pas les autres choses, prends ça. C'est les choses que le roi aime. Mets la bici. Mets le jar de bling bling ici. Mets le jar de chaussures ici. C'est la qualité que le roi aime. Alléluia. Pourquoi Gaël n'a-t-il pas conseillé les autres participants? Esther est devenue reine à la place de Vasti grâce à la main visible de Dieu, agissant par l'intermédiaire de la personne la plus inattendue, Igaël, qui apparemment savait ce que le roi aimait et ce que tout le monde admirait et qui a conseillé Esther à cet égard. Tout a été orchestré par Dieu. Je vous dis, Igaël a fabriqué une reine pour le royaume. Esther n'a pas plu seulement au roi, elle a plu à toute la cour royale. Tout le monde a dit, c'est elle, la reine. Alléluia! C'est elle. Il n'y a pas d'autre candidature. Parfois tu arrives quelque part, une personne t'aime, les autres te détestent. Ta bataille n'est pas finie. Oh. Je prie pour toi. Que la main invisible de Dieu te connecte à l'homme ou à la femme qui t'accordera une faveur inhabituelle au nom de Jésus. 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 Il ou elle n'est pas censé le faire, mais il ou elle le fera quand même. C'est la main invisible de Dieu qui a l'œuvre dans ta vie. Cette main travaille dans ton cas au nom de Jésus. Observons la main visible de Dieu dans le complot d'Aman. Oui, on ne peut pas finir Esther sans parler d'Aman. Comment le complot de ce méchant homme, Aman, contre Mardochée et les Juifs auraient-ils pu être déjoués autrement que par la main visible de Dieu? Son projet de pendaison de Mardochée, de génocide des Juifs a échoué grâce à l'intervention de Dieu. Et Aman a été pendu sur le bois qu'il avait préparé pour pendre Mardochée. Abona, qui est aussi un des instruments de la main de Dieu, qui aimait Esther, qui était à la cour d'Esther. C'est lui qui va renseigner le roi, qu'il a même fait une potence. Donc là où tu vois, il a mis le poteau pour Mardochée. Il dit, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa. Esther 7, le verset 9 à 10. Et Esther 9, le verset 25 dit, mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant, projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. Oui, bien-aimé. Par la main visible de Dieu, tous les complots contre toi se retournent contre tes adversaires. Au nom de Jésus, se retournent contre tes adversaires. Au nom de Jésus, toute ta main tombe dans les pièges qu'il a préparés contre toi, au nom de Jésus. Contre toi, au nom de Jésus. David dit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 27. Proverbes 26, 27, celui qui creuse une fosse, il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Quiconque a creusé une fosse pour toi, il y tombe au nom de Jésus. Il y tombe au nom de Jésus. Il y tombe au nom de Jésus. Vous voyez? le roi Azirus ou le roi Zézer, dans certaines versions, conduit par la main visible de Dieu, va signer un contre-décret. Un contre-décret. Parce que le premier décret qu'il avait signé sur l'instigation d'Aman était fait avec son sceau royal, irrévocable. Alors il va signer un deuxième décret pour donner le droit aux enfants d'Israël de se défendre. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de se défendre. Chacun attendait la mort sur place. Il a dit, maintenant, armez-vous de couteaux, armez-vous de machettes, armez-vous de goudins, défendez vos vies. Si ce n'était pas la main puissante de Dieu, ils seraient morts comme des poulets de ferme. Mais Dieu leur a donné l'opportunité de se défendre. Esther chapitre 9, le verset 1 à 2. Le verset 16 dit, les autres juifs qui étaient dans la province du roi se rassemblaient et défendirent leur vie. Ils se procuraient du repos en se délivrant de leurs ennemis. Et ils tuaient 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas pour que tes ennemis vivent. J'ai dit, tu ne mourras pas pour que tes ennemis vivent. Tu ne tomberas pas pour qu'ils se relèvent. Tu n'échoueras pas pour qu'ils réussissent. Tu ne perdras pas pour qu'ils gagnent. Au nom de Jésus. Observons la main invisible de Dieu dans la vie de Naomi. Oui, bien-aimé. Dans le livre de Ruth, l'avenir semblait sombre, ténébreux pour Naomi et Ruth. Mais la main de Dieu, la main visible du Seigneur était à l'œuvre pour transformer leur désespoir en une fin heureuse. Au milieu de ce désespoir apparent, la Bible dit de Ruth qu'elle était en train de glaner dans le champ appartenant à Boaz. Vous vous rappelez? Je vous fais grâce de toute l'histoire. Chapitre 1, vous pourrez lire tout le chapitre 1, vous verrez. Et au début du chapitre 2, la Bible dit que Ruth, sur l'instruction de sa belle-mère, va aller glaner, va aller, c'est-à-dire que quand on fait les récoltes, les petits qui tombent, elles devaient faire le ramassage. Elles se nourrissaient de ce qui tombait à terre. Et elle est allée glaner dans le champ d'un certain homme qu'on appelait Boaz, ce qui lui a permis de rencontrer Boaz par hasard. Un jour, Boaz passait aussi dans le champ, il remarque une femme qui est en train de... Il dit, ah, toi, tu es qui? Il dit, c'est Ruth. Il dit, ah, c'est toi la fille de... On entend beaucoup de bien sur toi. OK. Et il va donner l'instruction à ses serviteurs. Désormais, quand vous récoltez, laissez tomber les grains pour Ruth. Alléluia. C'est comme ça que Ruth et Naomi ont eu à manger. Ruth et Naomi ont pu manger. Mère Boaz était un parent rédempteur. Boaz avait le droit de rachat en deuxième place sur la vie de Ruth. Pourquoi Ruth, Naomi va l'envoyer chez Boaz? Parce que Boaz avait le droit de rachat. Mais depuis qu'elle était arrivée au village, ceux qui avaient le droit de rachat n'étaient pas venus revendiquer leur héritage pour pouvoir donner une postérité à ceux qui étaient morts. Alors Naomi a dit, je vais provoquer l'histoire. Je vais provoquer l'histoire. Et Dieu va la pousser à envoyer Ruth dans le champ de Boaz. Le meilleur moyen de séduire un homme, c'est dans le travail. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, vous voyez? Le meilleur moyen de séduire un homme, c'est pas le travail. C'est pas le travail. Une femme qui se couche, qui se fend les ongles, qui est toujours devant la télé, qui est toi, tu vois, c'est série Noblas. Maman, tu vas ennuyer l'homme là. Tu vas ennuyer l'homme là. Vous ne dites plus amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois être une femme qui initie des choses, qui pense des choses, qui projette des choses, qui met la main à la terre, qui est pratique, qui ne parle pas, qui est pratique, qui parle avec ses actes. À Alléluia. C'est comme ça que Boaz a reconnu Ruth. Elle se contentait de ce qu'elle avait. Elle ne se prenait pas la grosse tête. Quand il y a eu ce premier contact, Ruth, Naomi va lui dire, attends, Boaz sait ce qu'il a à faire. Amen. Quelques temps plus tard, il n'y a pas eu réaction. Elle a dit, ma fille, as-tu remarqué là où Boaz dort? Elle dit, maman, les servantes dorment autour, lui dort au milieu. Ok. Au milieu de la nuit, rentre dans sa couche, couche-toi sur ses pieds et attends. En se couchant sur ses pieds, elle était en train de se soumettre. Je me soumets à toi. Sauve-moi. Tends-moi la main. Donne-moi la main. Couvre-moi. C'est ce qu'elle va dire. Couvre-moi. Couvre-moi. Couvre ma nudité. Couvre ma honte. Couvre ma honte. Et il va se lever. Il va dire, c'est qui? Il dit, papa, c'est moi, Ruth. Il dit, ok, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, me voici à tes pieds. Il a dit, j'ai compris. Pas. Je sais ce que je vais faire. Un autre a le droit sur toi avant moi. Il faut que je convoque une réunion de famille et que cet autre-là se désengage. Alors moi, je saurai ce que je vais faire avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? La main invisible de Dieu travaillait. Et quelques temps plus tard, Boaz a organisé une réunion familiale. Et le cousin qui avait le droit de rachat, qui était le premier mari sur la liste, a dit que non, ma part de femme me suffit. Alléluia. Je ne veux pas les problèmes, vraiment. Trop de bouches qui bavardent à la maison, elles veulent devenir fous. Alléluia. Une bouche, je n'arrive pas à gérer. Deux, c'est l'asile de fous. Amen. Et puis, il a dit, je ne suis pas chaud pour donner la progéniture à quelqu'un d'autre. Et il a enlevé son droit. Et Boaz a récupéré Ruth et l'a épousée. Alléluia. Il y a un Boaz que tu dois rencontrer pour que ton histoire change. Il y a un Boaz que tu dois rencontrer pour que ton histoire change. J'ai dit, tu le rencontres au nom de Jésus. J'ai dit, tu le rencontres au nom de Jésus. J'ai dit, tu le rencontres au nom de Jésus. Le Seigneur t'amène, toi et ton Boaz, à l'endroit où tu te le rencontreras au nom de Jésus. Travail. Ton travail va attirer ton Boaz. Le même Dieu qui a amené Moïse au mont Horeb a amené Saül à Samuel alors qu'il cherchait les ânes perdus. Le même Dieu a amené David au camp militaire pour qu'il voie et tue Goliath alors qu'il apportait de la nourriture à ses frères. Il a aussi amené Ruth au champ de Boaz pour glaner, mais en réalité c'était pour trouver Marie. Cette saison, la main invisible de Dieu t'amène à l'endroit où tu rencontreras ta femme ou ton mari au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sa main invisible t'amène là où le miracle que tu n'attends pas te fera délivrer. Te sera délivré au nom de Jésus. Te sera délivré au nom de Jésus. Te sera délivré au nom de Jésus. Avançons. Est-ce qu'on peut avancer? Regardons Samson et la main invisible de Dieu. Dans Juges chapitre 14, les parents de Samson ne savaient pas que c'était le Seigneur qui le poussait à vouloir épouser une Philistine. Amen. Voici un garçon qui est né jusqu'au chapitre 13. On parle de sa naissance. On dit qu'il est né saint. Il est né saint. Et l'instruction a été donnée qu'il devait se séparer des choses qui ne sont pas pures. Amen. Il ne devait pas boire d'alcool, il ne devait pas. C'est-à-dire, il est un enfant né consacré. Mais ses parents ne comprenaient pas que quand on restait, Samson, lui, il aimait que les femmes étrangères. Ton problème, c'est quoi? Cherche une fille du village. Non, moi, j'aime que dehors. Ah, cherche une fille d'ici. Non, moi, je vais aller que de l'autre côté. Son père était dépassé. Vous vous rappelez la scène où ils sont allés doter une femme. Avant d'y arriver, Samson a dû tuer un lion sur le chemin. Et le miel s'est retrouvé dans le ventre du lion 3 jours au retour. Et il a sorti le miel, il a donné à ses parents, ils ont mangé. Alléluia. Alors, ils allaient doter une femme philistine. Et ce jour-là, quand ils arrivent, tellement les beaux-parents l'ont énervé que Samson s'est levé, il est parti. Samson est allé détruire les portes du royaume. Comme vous m'avez énervé, j'enlève la porte. Le beau-fils, il ne faut pas énerver. Oui, les gens de beau-fils, Nganou, va lui donner la femme, frère. Alléluia. Il vous écoute tout le monde, K.O. Il y a des beaux-fils qui arrivent, tu dis, papa, c'est tout ce que tu veux que je te prends. Parce que s'ils s'élèvent avec les coups de poing là, vous tous vous êtes allongés. Coma. Et c'était ça, Samson. Il vient doter une femme, on l'énerve. Il part, il arrache les poteaux. Il dit, maintenant, je vais voir comment vous allez vous protéger. L'eau va entrer ici. Inondation dans toute la concession. La clôture t'a fait quoi? Et la Bible dit qu'il va partir, il va revenir, que son meilleur ami avait pris sa femme. Ça va encore l'énerver. Mais ses parents ne comprenaient pas que c'était le Seigneur qui le poussait pour détruire les Philistins, pour avoir un droit légal de détruire les Philistins. Un jour, il va arriver pour doter, il va aller en brousse, on va lui demander les prépuces. Amen. On va lui demander, il dit, mais les prépuces comment? Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous savez, les prépuces, on les a quand on circoncie un homme. Si tu ne circoncis pas un homme, tu ne peux pas avoir les prépuces. C'est la partie qui décroche quand on sort, quand on circoncie un enfant. Amen. C'est ça qui sort, c'est le prépuce. Mais tu vas avoir ça comment? On va au marché. On lui demande ça. Le gars dit, d'accord. Il dit, donnez-moi une minute. Il part au désert. Il rencontre 30 Philistins. Il les tape, il les tue, il les circoncis. Il met dans le sac. Il vient, il donne. Il ne faut pas avoir les beaux-fils comme ça. Que Dieu t'en délivre. Il peut tuer toute ta famille pour te donner la dot. Pardon. Il allait tuer les frères de la fille pour donner la dot. Quand tu vois le prépuce, tu sais que c'est pour un Philistin. Tu sais que c'est pour un Juif. Prépuce égale prépuce. Problème. Est-ce que je peux continuer? Donc, quand vous voyez dans le chapitre 14, son désir était là parce que Dieu le poussait à aller détruire les Philistins, la ville de Gaza. Et c'est malheureusement ce qui va le pousser à Gaza où il va avoir la rencontre fatale de sa vie avec Delila. Au chapitre 16, alléluia, la main de Dieu était avec lui, mais ce jour-là, la main de Dieu n'était pas dans cette affaire. Alléluia. La main de Dieu n'était pas dans cette affaire. Dieu n'a pas non plus joué un rôle dans la convoitise de Samson pour la femme de la vallée de Sorek, Delila, qui a finalement conduit à sa capture par les Philistins et à sa mort. Juste 16, le verset 4 au verset 30. Dieu n'a pas conduit Samson vers Delila. C'est Samson qui a pris ses pieds à aller chercher Delila. Bien-aimé. Quand on vous dit que Delila n'était pas n'importe qui, Delila, ça veut dire faible. Amen. Il y a des hommes et des femmes ici dehors, lorsque vous les rencontrez, ils vous affaiblissent. Ils ont l'esprit là, ils vous affaiblissent. Votre vie est finie. Vous ne vous en sortirez plus jamais si Dieu ne vous fait pas grâce. Alors, Delila n'était pas n'importe qui. C'est la Bible dit que les princes des Philistins dormaient à côté de sa tente. Les princes des Philistins vont l'appeler et vont lui dire, Si tu nous aides à avoir Samson, nous on te donne de l'argent, de l'or jusqu'à la fin de ta vie. Et il dormait à côté de la tente de Delila. Il guettait. Premier test, Samson, voilà les Philistins. Il se lève, il tue. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils affaiblissent même ta vision. Comment deux, trois fois, tu as des signes, ça ne te dit rien. Tu dis c'est la coïncidence. Jusqu'à ce qu'on t'arrête, jusqu'à ce qu'on note tes deux yeux, par la main visible de Dieu. Je te déconnais de toute personne liée à l'esprit de Delila. Toute femme, tout homme lié à l'esprit de Delila. Je te sépare au nom de Jésus. Je te sépare au nom de Jésus. Je te sépare au nom de Jésus. Tout homme, toute femme qui va affaiblir tes affaires, qui va affaiblir tes finances, qui va affaiblir ton foyer, qui va affaiblir tes projets, qui va affaiblir tes finances, qui va affaiblir ta prophétie, je décrète maintenant qu'il se sépare de toi, qu'il se sépare de toi au nom de Jésus. Tes jambes ne te mèneront pas là-bas. Je dis tes jambes ne te mèneront pas chez Delila. Tes jambes ne te mèneront pas chez Delila. Paul est la main invisible de Dieu. Alléluia. La main visible de Dieu a délivré l'église primitive de ces redoutables persécuteurs qui étaient Saul. Saul de Tarse. Dieu était au courant du voyage de Saul à Damas. Actes chapitre 9, nous voyons cette histoire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Dieu était au courant. Saül, Saul, va attaquer le peuple, va tuer les disciples de Jésus. Et il va aller voir les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, pour prendre des lettres de recommandation à Damas, pour aller continuer à tuer. Mais Dieu avait un rendez-vous. Dieu avec moi, Dieu a un rendez-vous. Saul pensait aller à Damas pour persécuter les saints. Mais Dieu avait un autre objectif pour ce voyage, sa conversion. Il lui a ensuite envoyé un certain disciple appelé Ananias pour le servir. La main invisible de Dieu. Qu'est-ce qui a délivré Saul de l'aveuglement? La main d'Ananias. Alléluia. La main. Dieu va dire à Ananias, va, tu rencontreras un certain Saul de Tarse. Il est aveugle. Je l'ai visité, impose sur les mains et il recouvrera la vue. Alléluia. La main invisible de Dieu. À plusieurs reprises, la main invisible de Dieu a préservé la vie de Paul et de ses disciples et des autres disciples. Par exemple, dans Acte 23, le verset 12 au verset 24, comment se fait-il que le fils de la sœur de Paul ait entendu parler du complot visant à tuer Paul et qu'il ait pu l'en informer? Voici une réunion privée, une réunion secrète. Même le roi n'était pas au courant de la réunion. À cette réunion, on décide de tuer Paul. 40 hommes prennent le feu. Qu'ils ne vont vivre que sur le cadavre de Paul. Et à cette réunion, il y a le neveu de Paul. Hey, le neveu de Paul, bien-aimé, je prophétise. Quelqu'un parlera pour toi lors des complots de tes ennemis. Lors des complots de tes ennemis. Il s'élèvera un agent pour toi. Il s'élèvera un agent pour toi. Au nom de Jésus. La Bible dit que le neveu de Paul va entendre. Il va aller voir Paul en prison. Il dit, papa, demain on va venir demander la permission pour que tu ailles te présenter devant le roi. Refuse. On va te tuer en chemin. Et le roi, et Paul dit que, ah, regardez bien, bien aimé, Paul n'a pas prié en langue. Rada, gada, gada, feu, feu. Non, il a dit, va dire vite au roi. Va dire vite, va dire vite. Et quand on a dit, on a pris les dispositions pour protéger sa vie. Alléluia. Le jeune homme n'est pas allé exprès pour découvrir le complot. C'est la main visible de Dieu qui l'a amené là, pour une raison qu'il ne connaissait pas. Les auteurs du complot pensaient qu'il s'agissait d'une affaire réglée. Ils n'ont jamais su que le complot avait été divulgué. Leur complot a donc été déjoué et la vie de Paul a été sauvée. Voyez comment Dieu l'a préservé dans Acte 18 à travers le jugement de Gallion. Alléluia. Gallion, le député d'Achaïe. Lorsque Gallion était proconsul à Achaïe, à l'Achaïe, les Juifs s'élevaient d'un commun accord contre Paul et le fit comparaître devant le juge, le tribunal, disant, du temps de Gallion, les Juifs s'élevèrent. Il dit, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme des raisons. Oh Juifs, mais il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi. Cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya au tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène. Tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le bâtit devant le tribunal sans que Gallion s'en mit en peine. Vous voyez? C'est-à-dire que quoi? Gallion était comme le gouverneur de l'Achaïe. Et on va aller accuser Paul que cet homme, il lance des propos de rébellion contre l'État. Il veut que les gens se lèvent et contestent l'autorité de Rome. Et Gallion dit, ok, vous parlez, vous dites la loi. Moi, je ne suis pas juif, je suis romain. Donc, l'affaire de la loi là, ça ne vous concerne que seul. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vers la fin de l'histoire, on nous dit qu'ils vont se saisir d'un certain Sosthène, amen, qui était chef de synagogue, pour le frapper à mort. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Sosthène avait été chargé pour aller soudoyer le gouverneur. Mais ça n'a pas marché pour qu'on tue Paul. Ça n'a pas marché. Les gars se sont donc vengés sur lui. Bon, ça veut dire que tu as mangé l'argent. Comment tu peux justifier que le gouverneur parle en faveur de Paul? Et du coup, on l'a bastonné à mort. Je déclare sur ta vie. Quiconque sera mandaté pour aller parler contre toi, il tombera dans son propre piège. J'ai dit, il tombera dans son propre piège. Il sera frappé par ceux qui l'ont envoyé. Il sera frappé par ceux qui l'auront envoyé au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, voyez, la main invisible de Dieu est réelle. Peut-être tu es là, tu ne sens pas. Tu dis, ah, je ne sens pas la main invisible. Elle est là. Paul ne pouvait pas imaginer que c'était la main invisible de Dieu. Aujourd'hui, nous en parlons. Amen. Aujourd'hui, nous en parlons. Demain, quand tu passeras par certaines étapes de ta vie, tu vas te retourner et faire l'histoire de là où tu viens. Tu verras la main invisible de Dieu. Il te mince. Non, ça c'est Dieu. Si Dieu n'était pas ici, il serait mort. Hein? Il serait mort. Alléluia. Mais bien-aimés, recherchons la main visible de Dieu. Savez-vous que la main visible de Dieu peut même être présente dans certains problèmes que vous rencontrez dans votre vie? Vous pensez que c'est le diable, mais non, c'est le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a causé le problème, mais il a peut-être permis pour une raison, même si tu n'en profites pas. Vous vous préoccupez de votre confort, mais Dieu se préoccupe de son but ultime dans votre vie. Alléluia. Vous vous préoccupez de votre confort. Oh, je veux être bien. Je veux que ma vie marche. Mais le plan de Dieu, c'est lequel? Le plan de Dieu, c'est lequel? Le plan de Dieu, c'est lequel? C'est pourquoi il peut permettre certaines souffrances dans votre vie, non pas pour vous détruire, mais pour atteindre son but ultime. Son but ultime. Laissez-moi vous montrer comment cela a fonctionné dans la vie des Israélites. Juges chapitre 3, le verset 1 à 4. Juges 3, 1 à 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Aïe, voici les nations que l'Éternel Non, peut-être ma Bible n'est pas bonne comme ta part. Est-ce que quelqu'un a le micro, il nous la lit? Est-ce que quelqu'un... Lève-toi avec ta Bible. Tu sais, il y a un bon lecteur. Tu as le... Juge 3, 1 à 4. Est-ce que quelqu'un là? Lève-toi, on te donne le micro si tu as ton texte. Juge 3. Juge 3. Donne le micro là-bas rapidement. Alléluia. On va aller doucement. Je voudrais vous prouver que, bien aimé, c'est un problème de nos vies. Dieu s'en sert et sa main est derrière. Alléluia. Allons-y. Juge 3.
Juge 3, verset 1.
Je vais être sûr qu'on lit la même Bible. Hein. Voilà, lis.
Juge 3, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus.
Amen.
Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël.
Pour éprouver qui? Pour éprouver qui?
Israël.
Les nations là, c'était pour éprouver qui?
Israël.
Ok. Qui a laissé?
L'Éternel.
Hein? C'est ça? C'est l'Éternel qui a laissé. Allons-y.
Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan.
Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. La génération qui est née après la sortie du désert. Et ils n'avaient pas connu toutes ces histoires-là. Dieu va dire, pour qu'ils comprennent aussi la valeur des choses, je vais mettre des nations, je vais laisser ces nations-ci pour qu'ils les éduquent. Allons-y.
Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre.
Attends. Il voulait que quoi? Qu'ils connaissent et qu'ils apprennent quoi?
La guerre.
La guerre! Toi, tu veux la paix? Qui veut la paix ici? Tu as choisi le mauvais camp. Est-ce que je peux t'aider? Tu as choisi le mauvais camp. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu es en guerre. Satan connaît, Dieu connaît, sauf toi. Je te l'annonce ce matin, tu es en guerre. Dis à deux personnes autour de toi, tu es en guerre. Deux personnes. Mieux tu te réveilles et tu prends les armes pour combattre, et mieux cela vaudra pour toi. Ok? Pour qu'ils apprennent. C'est-à-dire que les nations, là, étaient les travaux dirigés. Travaux dirigés. Les problèmes par lesquels tu passes, les travaux dirigés. Allons-y.
Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant.
Mm-hmm.
Ces nations étaient les saints princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Amon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût qu'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse.
Ha! Merci. Est-ce que quelqu'un est édifié par ces paroles? Non, ta main là n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un est édifié par ces paroles? Alors, ne me pose plus la question, papa, pourquoi je vis ça? Tu es en travaux dirigés. Dis à ton voisin, tu es en travaux dirigés. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je vis? Tu ne sais même pas que tu composes. Parce que quelqu'un qui est en salle de compos, qui ne sait pas qu'elle compose ou qu'il compose. Et quand il échoue, il est étonné. J'ai une petite nièce qui a échoué l'examen anglophone l'autre jour, le BPC. Et elle s'est mise à pleurer. Elle pleure. Elle tombe à terre. Sa mère dit que tu pleures quoi? Tu as étudié? Vous savez, il y a les gens qui pleurent. Alors qu'elles-mêmes savent au fond d'elles-mêmes qu'elles n'ont rien foutu. Dis, tu pleures quoi? Je te dis, bûche, apprends vendredi. Tu dis que non, je n'aime pas étudier le vendredi. Je vais étudier que le samedi. Apprends samedi. Non, c'est trop tard. Je vais étudier lundi. L'examen arrive. Ma fille, il n'y a pas 1 plus 1 égale 5. C'est 1 plus 1 égale 2. Si tu travailles, tu donnes de tes efforts, tu assimiles tes coups, tu vas réussir. Elle s'est levée là, sur ses larmes. Elle m'aimait là. Alléluia! Frère! Tu refuses de composer tes travaux dirigés et tu es étonné de tes notes. Ça va marcher. Oh, le projet là n'a pas marché. Tu as compris même le travail dirigé. Ce matin, je veux nous aider. Dans tout cela, la main invisible de Dieu est là pour nous garantir la fin de l'examen, le succès. Amen. Voyez, la fin, le verset 4. Il dit, cette nation servit à mettre Israël à l'épreuve. Maintenant, remplace ces nations et met ces problèmes, ces difficultés, ces challenges, ces opprobres, ces haines, ces mépris. Serve à me mettre, moi, à l'épreuve. Serve à l'Éternel de me mettre à l'épreuve. Bien-aimé. Vous voyez, Dieu a permis à ses ennemis de rester afin d'éprouver les Israélites et de voir s'ils obéiraient au commandement que le Seigneur avait donné à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. En apparence, on pourrait croire que c'est le diable qui a fait cela. C'est pas vrai. Je vais vous étonner. Est-ce que vous savez que même Satan était serviteur de Dieu? Il ne fonctionne que dans la limite que Dieu lui donne. Amen. Rappelez-vous de l'histoire de Job. Satan est allé demander l'autorisation à Dieu pour frapper Job. Mais Dieu connaissait ce qu'il avait investi dans Job. Amen. Et vous voyez l'histoire de Job, ça nous apprend beaucoup de choses, hein. Ça nous apprend qu'il y a des batailles qui n'ont pas de source. Ça ne dépend ni de ton père ni de ta mère. C'est le plan divin de Dieu. C'est tout. Et tu dois accepter et arrêter de chercher qui est derrière mon problème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une deuxième leçon que l'histoire des hommes nous apprend. À choisir la bonne personne que tu dois épouser. Sinon, dans les difficultés, la personne va te pousser à maudire, à revenir sur les principes de vie que tu t'es donné, à régner les valeurs auxquelles tu t'es engagé hier. Alléluia. Il dit, maudit Dieu meurt. Alléluia. Deuxième leçon de Job. Ne regarde pas la beauté, oh. Bon, c'est bien la beauté. Il faut quand même que quand tu sors, tout le monde dit, waouh, mon type, ma fille, tu as un beau gars, un beau gosse. Amen. Et que tu sors, on dit, gars, tu as une belle fille là. Alléluia. Tu ne dis pas amen. Vous avez dit que moi, je suis sorti une fois, un gars a failli me gifler. C'est là où j'ai confirmé que ma femme était belle. Je savais qu'elle était belle jusqu'à ce qu'on m'ait menacé de me frapper à cause d'elle. C'est là où j'ai dit, mais c'est chaud. Jusqu'à ce que quelqu'un que je ne connais pas me menace. Pourquoi j'arrête la main de la femme là? Et l'autre m'a carrément dit, comment tu ne m'as pas attendu? Je te connais. Amen. Bien-aimé, il faut rentrer dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui vont être avec toi du moment où les bonnes choses se passent dans ta vie. Et quand les mauvaises choses vont arriver, il y a des gens qui vont être avec toi sans aucune maturité de la vie. Alléluia. Sans aucune maturité. Ils n'ont aucune maturité. Et quand les difficultés vont venir à cause de leur immaturité, tu vas te retrouver dans des situations bizarres. Parce que pour eux, tous les moyens seront bons pour sortir du problème. Même si tu te compromets, il n'y a pas de problème. On sort du problème, mais on fait comment? Un homme, une femme a conseillé son mari d'aller voler pour pouvoir régler certaines factures. Et l'homme a volé. Et quand on l'a attrapé, il a dit, c'est ma femme. On dit, toi-même, une femme peut te conseiller, tu voles. Tu es cinglé. Il n'en dormait plus. À chaque jour, on va faire comment? On va faire comment? Chercher l'argent, chercher l'argent, chercher l'argent. Il allait piquer dans les caisses. Et la caméra l'avait vu. Eh bien aimé, quand tu es avec la mauvaise personne ou les mauvaises personnes, amen, ça peut être des amitiés autour de toi. Tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'avais jamais été enseigné, même dans ta famille, à faire ça. Tu n'as vu personne faire ça. Tu te retrouves à les faire. Ce sont ces choses qui nous enseignent dans la vie de Job. Attention à ton entourage. Alléluia. Alors, on pourrait donc en apparence croire que c'est le diable qui a fait cela, mais c'est l'Éternel. Sa main invisible était à l'œuvre. Bien-aimé, la main invisible de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, façonnant les événements, vous dirigeant à votre insu et travaillant également à travers des situations négatives et positives, ainsi que des amis et des ennemis. Écoutez, je vais prendre un exemple. Si le pasteur Emma n'avait pas connu toutes les batailles qu'il avait connues dans sa vie, il ne serait jamais venu à Jésus. Et si Vanessa n'avait pas connu toutes les désillusions qu'elle avait connues, elle ne serait jamais venue dans la maison de Dieu. Et leur destin n'aurait jamais été lié. Alléluia. Dieu a travaillé dans leurs erreurs, dans leurs incompréhensions, pour les amener dans un lieu. Amen. Et quand ils se sont retrouvés dans ce lieu, Dieu leur a dit, c'est bon, maintenant vous pouvez associer votre destinée et monter plus haut. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas pourquoi nous passons par où nous passons. Oui, c'est vrai. Parce que la pression de l'ennemi ne nous donne pas le temps de réfléchir profondément. Parce que nous voulons absolument sortir de la fournaise ardente. Nous voulons absolument sortir de la fosse au lion. La peur du qu'en dira-t-on? S'il vous plaît, réveillez celle qui dort. Alléluia. Voilà, ça va? Tu as fini de prier? Alléluia. La peur, le regard des autres. Vous savez, c'est facile. Lorsqu'on vient de donner sa vie à Jésus, on le proclame partout. Mais après un mois, deux mois, six mois, on ne voit pas toujours des résultats. Le bavardage de début, là, ça baisse. Hein, Jésus est là, Jésus est là. Nous tous, on est passés par là. À un moment, on ne parlait plus fort. Oh, depuis quand tu parlais, ouais, donc. Tout ce que tu pouvais faire, c'est, ah, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. Il justifiera ma cause. Quand? Une de mes filles qui est en Europe, une de ses soeurs lui a dit, ta bouche peut construire les immeubles. Ta bouche, chaque jour, Dieu va. Dieu va, Dieu va. C'est nous qui te nourrissons. C'est nous qui t'envoie. Chaque jour, Dieu va, Dieu va. Dieu, qu'il fasse en voir. À un moment, tu te demandes si tu dois encore dire que Dieu va. Amen. Mais toi, tu te tais. Pour les plus courageux, ils continuent à faire comme. Ils deviennent des fous dans la famille. Ah, lui, là, il est fou. Il va encore dire Dieu va. Pardon. Amen. Pour les moins courageux, ils vont même plus dire Dieu va. Ils vont seulement dire. Ah, je suis là. Ah, je suis là. Alléluia. Pour les moins courageux, ils vont même disparaître. Ils ne vont même plus visiter les gens. Ils vont rester dans leur coin. En se disant, je vais sortir quand Dieu va exploser mon témoignage. Non. Je ne veux. Quand tu le coins, tu l'attrapes par hasard quelque part. Un jour, vous verrez. Un jour, Dieu va me faire grâce. Amen. À quel niveau tu es? Je voudrais t'informer ce matin. La main invisible de Dieu travaille. J'ai dit la main invisible de Dieu travaille. Oui. Quand la première catégorie va s'en sortir, vous savez pourquoi? parce qu'il est fou aux yeux des autres. Et sa folie est publique. Plus il va bavarder, plus il va... un moment, ça va devenir... Quand il va, on va faire une réunion de famille, quand on va dire, OK, toi, parle. Il va dire, quand Dieu va, on dit, voilà, ça a commencé. Alléluia. Il dit, mais toi, tu sais quoi avec toi? Il va tellement remplir la tête des gens dans la famille qu'on va dire, ah, quand on va le citer en exemple, on va dire, Dieu va. Amen. Les gens vont finir par s'habituer à sa musique. Une deuxième catégorie, qui ne parle plus, qui confesse seulement un peu, va être attaqué par des esprits qu'on appelle la honte. Alléluia. Le regard des autres. Ça va fermer leur bouche. Or, ils ont vaincu à cause de la parole. La parole. La parole. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Une dame a appelé, une servante de Dieu a appelé un pasteur qui espérait le fruit des entrailles dans sa vie. Il lui a dit, j'ai dit, hein, ta femme a déjà accouché, va depuis prier pour elle. Hein. Il dit, ah, il faut continuer à prier. Il dit que non, 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 non. Et un jour, la femme de ce pasteur a mis au monde. Et cet homme, un jour comme ça, il a appelé cette servante-là pour la saluer. Hey, ta femme, elle a accouché. Il dit oui, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné, nous a donné un garçon. Et pourquoi Dieu ne m'a pas dit? Vous voyez, il y a des gens qui prient pour toi pour exposer ta nudité. Alléluia. En fait, ils veulent que cette personne voulait que ce pasteur lui soit redevable. C'est grâce à mes prières que tu as eu l'enfant. Donc vous devez venir m'honorer. Eh bien aimé, quand tu te lèves pour parler de ce que Dieu veut faire dans ta, va faire dans ta vie, n'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Sa main est là. C'est peut-être pas encore glorieux comme tu espères, mais elle est là. Alléluia. Peut-être que tu ne saignes pas encore plein de questions autour de toi. Mais ce dont tu dois être sûr, c'est que sa main est là. Amen. Il y a parfois quand je me lève et je prie, et je suis en prière, je dis une chose au Seigneur, Père, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je te fais confiance. Je ne veux pas trop m'embêter avec des questions. Je ne veux pas trop remplir mon cœur avec des plaintes et des murmures. Ça ne va pas m'aider. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tout simplement. L'autre jour, quand le frère Alex est venu dans mon bureau, vous savez ce qu'il m'a dit? Il a levé la main, il a dit, papa, je veux confesser tout ce qui montait dans mon cœur chaque fois que tu me conseilles, que tu priais pour moi. Voilà ce que je disais, voilà ce que je pensais, voilà ce que... Il a dit, je sais, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Beaucoup à l'église, encore aujourd'hui, ont la même chose quand je prie pour eux. Ça ne me dérange pas. Il dit, j'avais toujours l'impression que quand les gens se mettaient là et parlaient, c'était vraiment le témoignage, vraiment c'est bien, mais ils ne peuvent pas comprendre ma situation. Ils ne peuvent pas comprendre. Bien-aimé, la main de Dieu est réelle. Ça ne sert à rien de te mettre à part, de croire que ton histoire part. Alléluia. Ce matin, je viens encourager quelqu'un et lui rappeler, Esther n'était pas au courant que la main visible de Dieu était là. Mais Dieu a utilisé des hommes comme Égaël, Abona, pour l'aider à vaincre et à détruire ses ennemis. Ruth ne parlait pas en langue. Elle ne prophétisait même pas. Elle était de la tribu qui était exclue de la bénédiction de Dieu. Mais elle a suivi les instructions. Nulle part on a dit que Esther a pri- Naomi a prié et a entendu Dieu lui dit que la pre- la, ce qui est même pire, c'est que lorsqu'elle revient de sa de son voyage après la mort du mari et des enfants, elle va dire l'Éternel m'a rendu amer. Elle va accuser Dieu de tous ses problèmes. Mais ça n'a pas empêché la main de Dieu d'accompagner les événements de sa vie. Ah, quel merveilleux Dieu. Alléluia. Parfois nous en voulons à Dieu, nous boudons même. Nous disons, je ne prie pas. Je ne lis même plus ta Bible. Mais ça ne l'empêche pas d'accompagner les événements de notre vie, de la manière qu'il veut nous éduquer. La manière qu'il veut éduquer Josiane n'est pas comme il va éduquer Maman Chambéli. Elles sont différentes. Chacune a ses batailles. Chacun a son travail dirigé. Dieu est le seul enseignant qui peut donner cours à 1 milliard de personnes et les cours ne se ressemblent pas. Alléluia. Au même moment, hein, vous prenez cours. Ce que vous écrivez, ce que tu écris dans ton cahier est différent. Alors, je fais un exemple. Ceux qui écrivent ce que je suis en train de dire là, si vous prenez le cahier pour Maman Chambéli, sera différent de ce que elle a écrit dans son cahier. Vous allez lire ces deux choses différentes. Alléluia. N'oublie pas cette parole. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Confesse cette parole, bien-aimé. Nous savons, nous sommes convaincus, nous n'avons même pas l'ombre d'un doute que toutes choses, ouvrez les parenthèses, bonnes et mauvaises, concourent la finalité. C'est en ton bien. La finalité, c'est pour ton bien. La finalité, c'est pour ton bien. Ayez confiance en Dieu. Si vous ne semblez pas comprendre ce qui se passe, croyez que Dieu a le meilleur plan pour votre vie et qu'il fera en sorte que son dessein ultime s'accomplisse. La main invisible de Dieu qui a travaillé pour Moïse, qui a travaillé pour Mardochée, Esther, Ruth, Naomi, Saül, David, et bien d'autres travaillera en votre faveur. Alléluia. Avec Dieu, tu es en sécurité. Si tu as foi en lui et que tu lui obéis, sa main invisible travaillera pour toi et contre tes adversaires. Alléluia. Et la main invisible de Dieu ne te frappera pas. Alléluia. Tu connaîtras la main gracieuse de Dieu. Garde ce passage. Romains 8, 28. Le jour où j'ai lu ça pour... J'avais l'habitude de le lire, mais un jour, le Saint-Esprit m'a aidé à le lire d'une autre manière. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit m'a dit, lis. J'ai dit, du reste, nous savons du reste que toute chose, il a dit, arrête-toi. Ouvre les parenthèses. Depuis ce jour, quand il lit ça, j'ouvre les parenthèses. Alléluia. Il dit, ouvre les parenthèses. Bonne et mauvaise. Ferme la parenthèse. Concours à ton bien. Alléluia. Ce matin, je viens prier pour quelqu'un. Que la main glorieuse, la main invisible, la main puissante, la main de faveur, la main de distinction intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Intervienne dans ta vie au nom de Jésus.